Frères et sœurs bien-aimés, nous poursuivons la lecture du chapitre 6e de Saint Jean, ce qu'on appelle le discours du pain de vie. Et j'aimerais aller plus loin que la sélection qui a été faite par la liturgie et aller à la fin de ce chapitre. Vous le savez, à la fin du chapitre 6e, il y a comme une rébellion des disciples, et certains disciples veulent quitter Jésus et ne comprennent pas son discours. Comment est-ce qu'on peut manger? Comment est-ce que lui est le pain du ciel? Nous connaissons son père et sa mère, certains le quittent. Et je me dis, tiens, au fond, le fait de quitter Jésus peut être aussi lié à l'Eucharistie. Et dans ce texte-là, en l'éclairant avec le final du chapitre 6e, on peut trouver plusieurs manières ou raisons de quitter le Christ. Les disciples, qui avaient déjà reçu des grâces, puisque un certain nombre, en tout cas, avaient été témoins de la guérison de l'homme malade depuis 38 ans, avaient été témoins aussi de la conversion de la Samaritaine et de beaucoup d'habitants de son village. Certains aussi disciples avaient été témoins de la guérison du fils du fonctionnaire royal, et puis évidemment le miracle des noces de Cana où les disciples de Jésus étaient présents. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on reçoit des grâces que notre fidélité est assurée. Notre fidélité au Christ n'est pas assuré à la mesure des grâces, de l'expérience que nous faisons de sa puissance. Il y a, et on le voit bien dans ce texte, plusieurs pièges ou raisons qui poussent les disciples à quitter le Christ. Premièrement, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Les disciples qui étaient juifs voyaient d'autres de coreligionnaires qui commençaient à trouver le discours passablement compliqué, voire idolâtre, voire complètement opposé à la loi, et donc eux-mêmes se sont mis à douter. Et je me suis dit, tiens, si parfois on s'éloigne du Seigneur, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est trop sous le regard des autres? Sous le regard des autres, qui fait que on s'auto-inhibe dans notre foi. Je vois beaucoup de personnes qui, pourtant croyantes, pourtant fidèles à la messe dominicale, mais ne font jamais état de leur pratique, de peur aussi d'être jugées. Et au fond, cet attachement au Christ nous demande une certaine liberté intérieure, liberté par rapport au regard de l'autre. Ce n'est pas d'abord le regard de l'autre qui me détermine, c'est d'abord ce que je suis sous le regard du Seigneur. Et puis il y a un autre piège qui peut aussi nous faire quitter Jésus et que l'on voit très bien dans ce passage-là. Il disait, celui-là n'est-il pas le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Vous voyez, c'est le pape Benoît XVI qui dit, il y a parfois une trop grande familiarité avec le Christ qui éloigne du Christ, qui fait que notre fidélité au Seigneur, notre attachement au Seigneur, eh bien, est remis en cause. Parce que on est d'une certaine manière trop proche, on le voit à la manière trop humaine. Hein, celui-là n'est-il pas fils de Joseph? Hein, nous connaissons bien son père, on le connaît bien. Nous qui sommes fidèles et des fidèles attachés à la personne de Jésus, cela peut nous arriver aussi de perdre de vue la transcendance, parce qu'au fond, tout au long du discours du pain de vie, dans ce chapitre 6e de Saint Jean, Jésus affirme la transcendance, je suis le pain descendu du ciel, vraiment, ben voilà, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. À force d'avoir parfois une dimension peut-être trop amicale d'une proximité, mais qui perd de vue la divinité, eh bien, on en vient à douter de la personne du Seigneur. Et c'est peut-être pour nous aussi l'occasion, cette méditation sur le discours du pain de vie, de nous réfléchir où est-ce que nous en sommes face à l'émerveillement, face à la majesté du Christ. Alors oui, nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à nous questionner, à demander au Seigneur qui nous relance dans notre émerveillement face à sa personne, de façon à être aussi, et c'est une condition pour la fidélité. Mais aussi, il y a, je voyais, peut-être un troisième point, justement, qui expliquerait le fait que les disciples s'écartent du Seigneur à la fin du chapitre sixième du discours du pain de vie. C'est, au fond, le scandale de l'incarnation. Certes, personne n'a jamais vu le Père, mais celui qui vient de Dieu, celui-là seul, a vu le Père. Le scandale de l'incarnation. Un homme qui dit venir de la part de Dieu, non seulement venir de la part de Dieu, les prophètes disaient aussi venir de la part de Dieu, mais là, plus encore, il a vu le Père, il vient du Père. Et c'est tout le premier chapitre de Saint Jean, justement le prologue qui nous explique cette divinité du Christ. Divinité du Christ manifestée dans son humanité. C'est vrai que le mystère de l'incarnation, qui est un scandale, qu'un homme dise être Dieu, venir du sein du Père, peut-être on en trouverait un certain nombre dans les hôpitaux psychiatriques, qui affirment eux aussi être Jésus, ou ceci ou cela. Qu'est-ce qui fait qu'on va croire à cet homme-là, plutôt qu'à d'autres ? Vous voyez, donc l'incarnation est d'une certaine manière un scandale. Un scandale peut-être aussi pour notre intelligence, nous remet en cause peut-être des certitudes acquises. Et pour les disciples qui suivaient Jésus de façon assez récente, le fait qu'ils puissent affirmer à mot couvert cette incarnation, eh bien, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas ça aussi qui a expliqué qu'ils aient été scandalisés et qu'ils aient en fait fait un pas de côté, parce que voilà, dans la tradition juive, personne ne peut voir Dieu sans mourir, mais c'est pas simplement sans mourir avec la perte de la vie, sans mourir à une certaine image de Dieu. C'est aussi une manière d'interpréter ce passage de la Bible. Alors, c'est intéressant cette dimension de l'incarnation à laquelle nous sommes habitués comme chrétiens, mais ne perdons pas de vue que c'est certainement, pour certes d'autres de nos contemporains, quelque chose qui pose question, qui scandalise. Certains voient Jésus comme un maître, comme un prophète, comme un guide, mais de dire qu'il est vraiment le Verbe de Dieu qui a pris chair et qui s'est manifesté, eh bien de là, il y a un pas. Mais je me dis, il y a peut-être une autre raison que l'on trouve dans ce passage-là qui expliquerait le fait que les disciples se soient éloignés. C'est une certaine disproportion. Je m'explique. À un moment donné, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Comment on peut, et nous avons avec l'Eucharistie, cette affirmation dont communie au corps et au sang du Seigneur, comment on peut dire que communier à du pain et du vin consacré ouvre la vie éternelle? Vous voyez, il n'y a pas de commune mesure entre ce geste que nous allons faire et la vie éternelle. Mais toute la vie chrétienne est basée sur la disproportion. Un peu d'eau sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, un peu de pain, un peu de vin, et c'est le ciel qui s'ouvre. Tous les sacrements sont les sacrements du vertige. Nous sommes la religion du vertige. Précisément parce que il n'y a pas de commune mesure entre les actes que nous posons et la réalité spirituelle à laquelle nous avons accès. Vous voyez, et donc c'est intéressant de, cette disproportion qui est au cœur même du christianisme. C'est au cœur même du christianisme qui a scandalisé les disciples et qui a fait que eux-mêmes se sont ont fait marche arrière, certains en tout cas ont fait marche arrière. Ensuite, on le verra non pas dimanche prochain parce que c'est le 15 août, mais dimanche d'après. Mais vous, Jésus qui s'adresse aux apôtres, est-ce que vous aussi vous voulez me quitter? Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, cette réplique extraordinaire de saint Pierre. Cela nous renvoie au fait que l'Eucharistie est un lieu de combat. Parce que le fait de quitter Jésus, ce n'est pas simplement au moment du discours du pain de vie. Évidemment, nous pensons à la scène, nous pensons à la passion, à la Pâque, où Jésus a été trahi, a été livré. Les disciples, à l'exception de Jean, ont fui, ont eu peur, etc. Ça nous dit que l'Eucharistie est un lieu de combat. Que ce soit dans la révélation de l'Eucharistie dans saint Jean, où il n'y a pas d'institution, comme vous savez, mais où ce soit l'institution de l'Eucharistie le jour du Jeudi Saint, dans les deux cas, il y a un combat. Il y a un combat par rapport à la fidélité. Il y a un combat par rapport à l'obéissance, à la foi dans la parole du Christ. Et on le voit encore plus récemment. Vous le savez, le Saint-Père a pris des dispositions par rapport à ce qu'on appelle la forme extraordinaire du rite romain. Pour faire très très bref, c'est les personnes, les fidèles attachés à la tradition aiment aussi célébrer, participer à une messe selon le rite de Saint-Pie V, la messe qu'on nous dit en latin, pour faire court. Et le Saint-Père a demandé, a sonné plus ou moins à terme la fin de cette messe selon ce rite-là. Cette forme qu'on appelle extraordinaire, qui avait été instituée par Benoît XVI. Et on voit qu'il y a, d'une certaine manière, le même combat. Le combat, ça a scandalisé, on peut les comprendre, les fidèles attachés à la tradition, ça a, d'une certaine manière, désarçonné ceux qui avaient fait le choix de la fidélité à l'Église par rapport à Monseigneur Lefebvre et à la Fraternité Saint-Pédis, qui s'étaient éloignés de l'Église catholique, nous qui avons, je veux dire, tout quitté pour te suivre, nous qui avons été fidèles, et voilà ce que nous avons en retour. On comprend la colère qui peut habiter les fidèles et les prêtres qui sont attachés à la tradition. Mais au fond, nous sommes plongés au cœur même du chapitre 6e de saint Jean. Et c'est Pierre, chef de l'Église, voilà, sur cette pierre je bâtirai mon Église, qui redit, voilà, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ne soyons pas surpris que l'Eucharistie soit un lieu de combat, parce qu'elle s'est établie dans le combat, elle s'est forgée, elle s'est formée à l'intérieur même d'une tension. Alors on va demander au Seigneur que nous soyons nous aussi fidèles, parce que croire que Jésus est présent sous les espèces du pain et du vin consacré, ce n'est pas une évidence, c'est une certitude, mais ce n'est pas une évidence, c'est la foi, c'est le mystère de la foi, comme nous allons le dire dans un instant. Mais c'est peut-être aussi un combat pour nous, un combat d'accueillir cette révélation que quand nous communions, nous communions au corps, à l'âme et à la divinité du Christ. Alors, demandons au Seigneur de nous aider. Déjà, ne soyons pas surpris si l'Eucharistie, tant au niveau ecclésial, mais aussi au niveau personnel, ne soyons pas surpris d'être livrés au cœur même d'un combat spirituel. Et avec Pierre, redisons notre foi, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.